Bienvenue dans Sur le grill décotable, le podcast qui décrypte les enjeux environnementaux, sanitaires et sociaux de notre alimentation. Ce podcast est aussi l'occasion de dresser des portraits de l'écosystème écotable. Ces militants de l'assiette, je les rencontre depuis le lancement d'Écotable début 2019. Ils se réunissent autour d'objectifs communs, l'écologie et le bien manger. Aujourd'hui, à travers ce nouveau format, je souhaite faire connaître ces restaurateurs, agriculteurs, entrepreneurs, militants. Je souhaite vous faire partager ses engagements, ses parcours. J'espère que ces portraits vous plairont. N'hésitez pas à me faire un retour et à nous soutenir en notant ce podcast 5 sur 5 et en le partageant largement. Bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous. Pour ce nouvel épisode des Militants de l'assiette, je suis aujourd'hui avec Florent Hélé. Florent est, comme il le dit lui-même, un druide. Il est passionné par les plantes et leurs vertus, notamment médicinales. Cette passion, il en a fait un projet entrepreneurial et plus particulièrement une boisson, la boisson simple. Ce soda bio, sans sucre ajouté, 100% issu de plantes françaises, fait découvrir des mélanges étonnants et très variés. Chacune de ces boissons possède des vertus, détoxifiantes, énergisantes, relaxantes et j'en passe. Je suis donc ravie d'en connaître plus aujourd'hui sur le parcours de Florent. Bonjour Florent.
Bonjour Fanny.
Est-ce que tu peux tout d'abord te présenter ?
Alors, je m'appelle Florent Hélé, j'ai 25 ans aujourd'hui, enfin cette année, et je suis entrepreneur, je fabrique des potions et des infusions pétillantes avec mon équipe de droïdes depuis maintenant un peu plus de 2 ans.
Vous êtes combien d'équipes ?
Alors là, on est un petit peu en phase de transition et l'année 2020 a réservé pas mal de surprises. Mais là, aujourd'hui, on peut dire qu'on est 5 druides à faire avancer simple. Mon associé cofondateur Théo, Valentin qui nous a rejoint dans l'aventure, ça fait maintenant un peu plus d'un an, qui lui aussi maintenant associé Adrien qui s'occupe de la partie commerciale à Paris et Nathalie qui gère un peu plus la partie comptabilité gestion.
Ok, je suis vraiment ravie parce que c'est la première fois que j'interviewe quelqu'un qui travaille dans les boissons. On a interviewé des restaurateurs, des journalistes, des entrepreneurs, mais pas encore sur cet aspect-là qui paraît essentiel. Comment t'es venue l'idée de Simple ?
Ah, c'est la fameuse question et la fameuse histoire qui va derrière.
En fait, moi, on veut la vraie histoire, on veut pas le storytelling que tu balances à tous les journalistes.
Non, il n'y a que la vraie histoire. En fait, moi, je suis un grand passionné de plantes depuis pas mal de temps, même depuis que je suis tout petit. Je trouve ça fascinant qu'on arrive à soigner les gens avec des plantes. Et mon parcours, je l'ai un petit peu façonné à travers ça. Donc, j'ai eu la chance de faire un IUT en agronomie pendant lequel je travaillais dans un jardin botanique en parallèle. J'ai fait beaucoup de stages en exploitation agricole. Et c'est tout de suite cette filière de plantes aromatiques, médicinales.
Mais tu voulais devenir agriculteur ?
Pas vraiment. Je voulais plutôt devenir ingénieur. D'ailleurs, c'est ce que je suis devenu pour un peu structurer cette filière-là. En l'occurrence, cette filière qui mérite clairement d'être mis en lumière. Donc, je voulais structurer cette filière de plantes et je me suis dit que le mieux, c'était bien évidemment d'aller en cultiver avec ces personnes-là. Donc ça, j'ai eu l'occasion de faire pas mal de stages en exploitation agricole. Et mon stage de fin d'IUT avant d'arriver à l'école d'ingénieur en agronomie, je l'ai fait au conservatoire des plantes de Milaforêt. Alors, ça parle pas toujours, mais c'est un petit village à côté de Fontainebleau, donc dans le sud de Paris. Et en fait, c'est le berceau de la culture des plantes médicinales en France. Et il y a donc un conservatoire qui a pour grande mission de conserver cette ressource-là. Et là, je faisais de l'éducation à l'environnement, donc rien à voir avec l'entrepreneuriat. Mais je buvais beaucoup de plantes pour me donner de l'énergie, notamment pour faire de l'escalade, qui est ma deuxième passion sur le rocher Bellifontain, le rocher de Fontainebleau. Et en fait, de fil en aiguille, j'ai rencontré un herboriste espagnol qui était crudivore et vegan. Donc quelqu'un qui avait une forte conscience que ce qu'il mangeait, ce qu'il buvait impactait sa performance. Et moi, c'est vrai qu'en parallèle, je buvais pas mal de plantes au conservatoire parce que je les faisais déguster pendant les visites. Et c'est un peu là que la graine a germé. Je me suis dit, est-ce qu'on pourrait pas en fait créer une boisson énergétique mais qui moi me convient, parce qu'aujourd'hui tout ce qu'il y a sur le marché ne me convenait pas, et donc en arrivant à l'école c'était parti.
C'est parce que ce qu'il y avait sur le marché te convenait pas que t'as été obligé de créer tes propres boissons?
C'était un peu un mix de tout ça, c'est-à-dire que j'y trouvais pas mon compte. À côté de ça, je commençais à formuler des potions un peu bizarres, mais qui étaient plutôt efficaces. Et l'un dans l'autre, en faisant un peu plus de recherche, je me suis rendu compte dans les magasins bio qu'il y avait rien, qu'il y avait pas un produit dans lequel je me reconnaissais vraiment. Et donc peut-être.
Et qu'est-ce qui te convenait fonctionnait pas particulièrement dans les produits qu'il y avait sur le marché. Trop de sucre.
Ouais, je dirais qu'il y avait trois axes. Le premier, c'est effectivement ce taux de sucre là que je trouve juste insupportable, et je ne comprends d'ailleurs pas pourquoi l'industrie du soda va vers. Enfin, je le comprends parce que c'est bien évidemment addictif, mais je m'y trouvais pas par rapport au sucre. Je m'y trouvais pas non plus par rapport à l'origine des matières premières. Et ça, je pense, que ça va être un échange qu'on va avoir qui pour moi était hyper important. Il y a tout un tas de superbes boissons qui sortent, mais c'est toujours du gingembre qui vient de l'autre côté de la planète ou le d'hibiscus. Alors, j'ai rien contre les boissons au gingembre à l'hibiscus, mais je trouvais ça un peu dommage de devoir aller chercher aussi loin. Et la troisième chose, c'est que au final, il y avait tout simplement pas de bonne alternative au soda, sympa au niveau gustatif, sans ouais. tomber dans un truc complètement ennuyeux et sans goût, quoi. Ouais. Donc, c'est un peu ce triptyque là qui me dit, bah, pourquoi pas, en fait, créer la mienne. Et donc, de fil en aiguille, en arrivant à l'école, je me suis fait accompagner par le pôle étudiants entrepreneurs. L'école m'a prêté un laboratoire de formulation.
Donc, attends. Là, t'as cette idée là à ce moment là, tu dis, ok, je vais le faire. Et du coup tu fais quoi là? Tu vas voir qui dans ton école pour t'aider?
Et ben là, pour la vraie petite histoire, c'est que j'envoie un mail au directeur de l'école à l'époque. Donc j'avais été accepté à l'école d'ingénieur en étant en stage à l'IUT. Et malgré le fait d'avoir été accepté, je lui ai dit, est-ce que je peux pas revenir dans un an pour développer mon projet, tout ça? Et finalement, bon, je suis revenu à la raison. Je me suis dit qu'il fallait mieux que je travaille en parallèle de l'école. Et c'est là où je trouve que maintenant, alors l'entrepreneuriat est peut-être un petit peu plus à la mode. Et on a vraiment une facilité de se faire accompagner. Donc, je vais voir le pôle des étudiants entrepreneurs. Ils m'ont expliqué ce que c'était qu'un business plan parce que je n'avais pas la moindre idée. J'ai aussi rencontré mon associé Théo qui a une part hyper importante dans tout ce projet pendant l'école. Et de fil en aiguille, un incubateur nous a aidés qui était en face de l'école. Et puis, petit à petit, on en vient être sur le marché, quoi.
Et ce Théo, du coup, tu le rencontres à l'école. C'est toi qui le convainc de rejoindre l'aventure? Tu lui dis, j'ai une super idée.
Alors ouais, ça s'est un petit peu fait comme ça. Alors au tout début, j'étais le, comment dire, un peu le fou de la promo qui voulait faire ses boissons, mais c'était assez clair pour moi. J'arrivais en première année, en troisième année, il fallait que je sorte avec une boîte qui soit montée et puis des boissons sur le marché.
C'était
clair. Ambitieux, je sais pas, mais en fait, c'était le but, quoi. C'était, j'arrive à l'école et je fais le maximum pour que dans 3 ans, j'ai une société qui soit créée et que je mette des boissons sur le marché. Donc, au début, j'étais vraiment dans une phase de test et c'était d'abord, en fait, un super pote de l'école. On était dans le même groupe de promo et de fil en aiguille, je le sentais avec cette fibre entrepreneuriale et je pense ne pas m'être trompé parce qu'on est hyper complémentaires sur tout un tas d'aspects. Et en fait, pendant ce parcours d'ingénieur, on a eu la chance de faire quelques projets de groupe et tout de suite, je l'ai intégré aux réflexions. Et puis c'est devenu comme, en fait, c'est tombé sous le sens que ce soit lui l'associé, quoi. Et donc après, on a tout créé ensemble.
Ok, quel est votre rôle? Comment vous vous répartissez
Les rôles évoluent un petit peu avec le temps, mais si je devais maintenant te caricaturer la chose, moi au début je m'occupais vraiment de la partie sourcing des matières premières parce que c'était mon expertise et à force de travailler dans les plantes, et ben, j'avais des bons plans, des bons filons, donc je m'occupais de cette partie là et maintenant c'est plutôt lui, sachant qu'il est ingénieur en industrie alimentaire et que moi je suis ingénieur agronome, c'est plutôt lui qui gère maintenant toute la partie production, donc en relation avec notre prestataire et toute la partie juridique institutionnelle dans laquelle moi j'étais vraiment pas très à l'aise, toute la recherche de financement, donc ça c'est sa partie, le management aussi, tandis que moi maintenant je suis focus un maximum de temps sur le développement commercial, parce que c'est quand même le nerf de la guerre, et tout ce qui est R&D, c'est quand même moi qui ai une bonne affinité pour les produits, ouais. qui les ai formulés depuis le début, donc on se fait aider souvent par des stagiaires ou des alternants, mais là c'est moi qui ai quand même un petit peu ce côté plus formulation. Ouais.
Ça m'intéresse vachement, comment tu as formulé tes boissons. Moi, pour la petite histoire, j'ai découvert tes boissons l'année dernière alors que j'étais enceinte. Je cherchais aussi une boisson l'été à boire qui n'était pas alcoolisé, qui n'était pas bourré de sucre nécessairement et qui n'était pas une bière sans alcool un peu fade que je trouve souvent trop sucrée. Et j'ai découvert ta boisson énergisante que j'ai adorée. Donc comment tu les as formulées? Donc t'es à l'école et là tu commences tout de suite à faire des associations à...
Alors c'est bon, déjà je suis très content parce que c'est aussi pour plaire à des gens qui ont pas forcément l'envie de boire de l'alcool et de pouvoir leur proposer une vraie alternative mais qui ait du sens jusqu'au bout. Donc ça me fait plaisir de savoir que tu en as déjà bu. Alors la formulation, en fait, c'est là où je dirais qu'il y a eu un peu, c'est peut-être là où il y a un petit peu l'âme aussi de la marque, c'est qu'en fait tout de suite moi j'ai formulé, avant même d'imaginer un business plan, d'imaginer un commerce, etc. J'ai tout de suite en fait commencé à fabriquer des boissons. Alors en fait, C'est assez simple, mais dans mon petit Larousse des plantes médicinales, à l'époque, il y avait du thym, du romarin, de la menthe poivrée facilement accessible au conservatoire. Et du coup, c'est les principales boissons que je faisais, enfin, les principales plantes que je faisais infuser. Et en me renseignant, j'ai vu que c'était des plantes toniques, stimulantes, etc. Et je me suis dit, bah, en fait, il faut que ça parte de là. Donc, cette première boisson, je l'ai formulée avec ces plantes que j'utilisais déjà. Et maintenant, on a une vision qui est beaucoup plus claire, des patterns de recettes qui sont vraiment assez, assez clairs. Donc, en fait, au début, il y avait, je sais plus, peut-être 7 plantes. Ensuite, il y a eu 4, 5, 6 jus de fruits. Il y a un moment donné, on s'est dit, bon, il faut qu'on épure un peu la chose. Et c'est aussi Théo qui est venu me dire, écoute, moi, je veux bien qu'on se lance dans un projet de boisson, mais avec une seule boisson, on va pas aller très loin. Est-ce qu'on pourrait pas créer une boisson complémentaire, plutôt relaxante? Et je lui dis, bah, les plantes sont merveilleuses. Au lieu d'utiliser des plantes toniques, on va utiliser des plantes relaxantes. C'est comme ça qu'on est venu faire la deuxième potion. Et l'idée, c'est d'utiliser donc des plantes uniquement cultivées en France. Ça, c'est vraiment la chose sur laquelle on ne pourra jamais tergiverser. Et du coup, dès lors que j'ai envie de créer une nouvelle recette, je regarde, en fait, tout simplement, qu'est-ce que la nature m'offre? Qu'est-ce que les producteurs français sont capable de faire, et ensuite c'est à partir de là que je fais infuser, que je teste, je goûte, et de fil en aiguille on en arrive à une recette bien ficelée.
Et comment tu fais pour sucrer tes boissons? Parce que ce qui est étonnant avec les boissons simples, c'est que elles sont agréables en bouche, elles ont un sucre qui est présent mais qui n'est pas là par l'ajout de sucre raffiné.
Alors justement, alors là, le sucre, c'est une problématique, c'est un puits sans fond, j'ai envie de dire. Nous on a fait le parti pris. Alors effectivement, la dernière qu'on a sortie, qui est la potion détoxifiante, elle est absolument sans sucre ajouté. Et d'accord. Là, on fait infuser encore une plante qui est la stevia, donc qui est cultivée en Nouvelle-Aquitaine. C'est un peu sa spécificité. C'est une plante qui tire ses origines plutôt d'Amérique du Sud. Et en fait, il y a une nouvelle filière qui s'est montée, et donc on trouve ça assez génial de faire infuser une plante qui est cultivée sur le territoire et malgré ses origines un peu lointaines. Donc ça, c'est pour la dernière création qu'on a faite. Sinon, les autres boissons utilisent du sucre de fruits, du sucre de raisin. Donc en fait, c'est un peu comme un jus de raisin concentré. Et l'idée qu'on a, c'est vraiment d'en mettre le moins possible pour garder toute la naturalité du produit. Mais on a essayé, et ce qui m'énerve par-dessus tout, c'est les industriels qui justement utilisent ce même sucre de fruits en écrivant en énorme sans sucre ajouté, alors qu'en fait, ils font juste utiliser du jus de raisin concentré. Donc l'idée, nous, c'est pas de tromper le consommateur. On en met un petit peu, on en met le moins possible. Et en plus de ça, pour finir sur le côté gustatif, on travaille beaucoup sur les jus de fruits. Et donc là aussi, c'est l'idée d'avoir des jus de fruits de producteurs. Donc par exemple, on a de la myrtille des Vosges, ouais, de la cerise de Lorraine, de la mirabelle de Lorraine. Donc ça vient apporter un peu de rondeur en bouche. Et pour le sucre, pour l'instant, du sucre de fruits. Ouais.
Et en termes de santé, que ça soit du sucre issu des fruits par rapport à du sucre de canne, ça change quelque chose?
Alors c'est toute la partie, justement, la différence entre un sucre raffiné ou un sucre moins raffiné. Et là, l'idée, en fait, c'est qu'on utilise le fruit, on en extrait la partie vraiment gustative. Donc c'est un sucre qui est moins raffiné, donc il a nécessairement un peu plus d'intérêt. Et moi, l'idée de base, c'était de formuler une boisson énergisante. Donc il fallait aussi qu'il y ait un côté glucide pour donner du peps et de l'énergie. Mmh. Alors qu'un sucre raffiné, lui, ça va donner juste de la calorie vide. Là, il y a l'intérêt de donner un peu plus d'énergie
ouais,
au corps.
Intéressant. Ce qui m'intéresse aussi, c'est que toutes tes boissons, là, je les ai devant les yeux, elles sont labellisées agriculture biologique. Pour toi, c'était essentiel?
Pour moi, c'était indispensable, et c'était en fait le premier degré. Pour moi, l'agriculture biologique, juste respecter le label, c'est pas suffisant, mais c'est juste que, ayant fait 5 ans d'études en agronomie, et si on a envie de changer le modèle, ça semblait être vraiment le premier pas, quoi, vers ça.
Donc en école, on t'apprend ce genre de choses, que les différences d'impact entre agriculture intensive et agriculture biologique?
Alors on t'en parle, on en discute. Après, très sincèrement, on apprend à faire des rations pour bovins tout à fait classiques avec du tourteau de soja, etc. Donc ouais, on en parle. Après, chacun se fait sa vision, et je peux pas dire qu'on n'a pas eu des profs hyper intéressants, hyper engagés, qui nous ont ouvert l'esprit, qui nous ont permis de nous renseigner. Mais de là à dire que 90% des cours sont tournés vers l'agriculture biologique et un modèle plus durable, ce serait de mentir.
Ouais, il n'y a pas
donc
de transition.
C'est en cours.
Stade de l'école.
Exactement. Mais malheureusement, il suffit de regarder là où vont travailler la plupart de mes collègues qui sortent de l'école. C'est quand même souvent pour des grands groupes, malheureusement.
Ouais.
Donc, on en parle, on est sensibilisé. Cependant, c'est en cours.
Ok. En cours. Et alors, d'où te vient ton engagement, toi?
Mon engagement.
Oui, est-ce que tu te considères comme quelqu'un d'engagé?
Ouais, bah j'essaie au maximum de l'être et de ne pas l'être que dans ma marque de boisson, en fait. Hein. L'idée, ouais, c'est aussi dans mon régime, dans mes appros. Enfin voilà, je fais attention à ça, et je pense qu'il y est arrivé assez naturellement. Bah, déjà, quand j'ai visité un élevage de cochons industriels, parce que ça faisait partie de la formation, Ben, j'ai arrêté de manger du cochon le lendemain, quoi. C'était quand même assez, assez clair et net. Et pourtant, on a eu la chance d'aller visiter un très bel élevage de cochons en plein air, bio, etc. Donc, je dirais déjà que les études m'ont permis d'ouvrir et de mettre le projecteur sur des choses dont j'avais pas forcément conscience. Par exemple, il y a très peu de gens qui savent
C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'on vous fait quand même visiter le pire de ce qui existe en termes d'agriculture et d'élevage français.
Ouais, et ça, c'est top, parce qu'en fait, tu dis le pire, mais en fait, c'est la norme. Et c'est là où c'est dramatique, C'est que c'est 90% des élevages.
Ouais.
Et c'est là où je trouve qu'il y a un véritable problème. En tout cas, je pense que cet engagement, il vient du fait que on m'a mis en lumière la vérité. Et après, tu prends pas, c'est à toi de faire ton choix en ton âme et conscience.
D'accord. Donc si t'avais un moment clé en tout cas dans ta vie, c'est la visite de cet élevage.
Je dirais ce serait trop
romancé.
Voilà, ce serait trop romancé. Je dirais qu'en tout cas pour ma consommation de viande, c'est certainement le moment où j'ai eu un éclat et un véritable changement. Après c'est un tout en fait, c'est aussi le fait d'avoir fait des stages en exploitation agricole en bio,
ouais.
De rencontrer ces gens qui vraiment portent fort leurs valeurs et savent pourquoi ils le font, et moi c'est à travers les plantes médicinales, enfin, on se soigne quand même quand on prend des plantes, donc ça semble juste logique qu'elle n'est pas blindée de pesticides, qu'il y ait plein de cochonneries qui poussent à côté. Donc c'est, sachant que les plantes, c'est quasiment le truc le plus sensible à mon avis, qui est quand même relativement peu transformé, parce que nous, en l'occurrence, on achète des plantes à des producteurs, on les fait infuser, elles sont dans les bouteilles, quoi. Donc c'est un peu ce tout qui m'a fait me rendre compte de là où on allait, de ce qui n'a pas été, et du coup, j'essaye à mon échelle de changer les choses, quoi.
Ouais. Et t'as une famille engagée?
Alors mes parents sont profs de sport, rien à voir avec avec tout ça. Je dirais que c'est plutôt moi qui commence à les engager. Et j'ai des frères aussi qui sont assez conscients de ces problématiques, donc on aime bien en discuter. Mais je pense que c'est plutôt moi qui
refuse. C'est pas un engagement
familial. Non, pas vraiment. Et je ne jette pas la pierre à ma famille.
Oui. Comment ça se passe alors tes relations maintenant avec tes producteurs? Ça m'intéresse. Comment t'as fait ton sourcing?
Alors le sourcing, je l'ai fait de différentes manières, parce qu'il y a vraiment, on va dire qu'il y a deux grandes composantes dans les boissons. Il y a les plantes, et ça c'est ce qui fait notre différenciation, et c'est pour ça que ça s'appelle simple, parce que les simples médecines, c'était le nom des plantes médicinales à l'époque du Moyen-Âge, et qu'on essaie de remettre ça au goût du jour. Et il y a aussi une partie jus de fruits qui est assez intéressante aussi, et qui très vite en fait est venue, parce que je me suis dit, donner du goût à des boissons avec des plantes, on peut rajouter des jus de fruits. Et donc le sourcing, il s'est fait assez naturellement. Alors vu que nous on était de Nancy à la base, je suis allé voir une productrice qui faisait de la mirabelle, de la cerise, donc je suis allé lui acheter des petites bouteilles de jus de fruits, commencer à faire ses mélanges. Donc il y a eu un sourcing vraiment de proximité dans un premier temps. Après il a fallu professionnaliser, et aussi l'idée c'est pas de déroger à notre règle dès lors qu'on va se mettre à faire du volume, parce que c'est une industrie de volume, on peut pas le cacher, on peut pas gagner notre vie en vendant 100 boissons par jour, c'est pas possible. Mais du coup il faut réussir à...
À partir de combien tu gagnes ta vie?
C'est très compliqué, parce que ça dépend de, enfin tu sais, c'est une histoire de charge que tu mets en face, etc. Ouais. Honnêtement, je pourrais pas te donner un chiffre, ça dépend du nombre de personnes que t'as dans ta boîte, mais tout ça pour dire que c'est un business où on gagne très peu d'argent par bouteille vendue. Donc naturellement, il faut quand même en vendre beaucoup pour pouvoir en vivre. Ça c'est juste le béaba. Donc pour en revenir au sourcing, il y a eu ce côté jus de fruits où je suis allé tout de suite à la grande proximité, et après sur les plantes, moi la filière me passionne, et vu que j'ai eu l'occasion de mettre le nez entre guillemets dans différents lieux, j'ai très vite identifié des coopératives de producteurs.
D'accord.
Et il y en a une avec qui on bosse qui est vraiment extraordinaire, parce qu'en fait c'est des pionniers de tout ce qui est cueillette sauvage. Donc ils ont regroupé une quarantaine de producteurs, et leur dada entre guillemets c'est vraiment de cueillir les plantes en sauvage. Alors attention, il y a tout un label qui dit qu'on ne peut pas cueillir à tout va pour laisser ensuite la nature pour morte, hein. Il y a vraiment, c'est hyper bien fait, mais du coup cette coopérative là elle me permet de vraiment, pour moi, de donner mon argent à des gens qui font les choses bien, et je trouve ça hyper intéressant. Donc
c'était un peu ma question suivante. Est-ce qu'il y a des plantes sauvages dans tes boissons, et quelle proportion?
Alors la proportion, ce serait vachement difficile. En fait, ça dépend vraiment des recettes, mais pour prendre l'énergisante, qui est vraiment la potion de base qui nous a fait un peu tout créer, on a le romarin, qui est une des plantes qu'on utilise le plus dedans, qui est cueillie en sauvage notamment.
Et quelle est la différence? Est-ce que ça a des vertus plus fortes en sauvage plutôt que de faire pousser du romarin dans une exploitation?
Alors ça, pour les vertus, je dirais que tout est question de principe actif, et ça dépend aussi beaucoup de la météo notamment, parce que tu vois une plante qui va par exemple avoir plein de soleil, elle va naturellement plus facilement fabriquer des molécules qui ont un intérêt.
D'accord.
Donc ça dépend pas mal de la position géographique. Après nous on est plutôt des défenseurs du terroir que d'une pure localité, c'est-à-dire que je préfère avoir du thym de Provence que du thym qui a poussé du côté de Lille par exemple, parce que c'est là où il est naturellement présent.
D'accord.
Donc plantes sauvages, plantes cultivées, je dirais qu'il n'y a pas, il y a pas une vérité pour tout. Ça dépend aussi beaucoup du type de plante. Il y a des plantes, par exemple, la verveine, on trouve pas de la verveine en sauvage en France. Ou vraiment, je me tromperais, mais donc il y a certaines plantes qu'on est obligé entre guillemets de faire pousser si on les veut. Et c'est pas parce qu'on les fait pousser qu'elles sont forcément moins bonnes qu'une plante qui pousse en sauvage. Donc ça dépend du lieu, ça dépend comment, ça dépend comment, ouais, vraiment comment c'est fait et où est-ce que c'est fait. Et pour donner un autre exemple, j'ai mon sureau aussi. La fleur de sureau
qui pousse très facilement dans le sauvage pour le coup.
Exactement. Et elle, on l'utilise aussi en sauvage dans la dernière détox qu'on a faite.
Ok, super. Et t'as combien de producteurs, ça t'amène à...
C'est difficile à te quantifier parce que vu qu'on bosse aussi avec des coopératives,
réseaux.
C'est des réseaux. Et moi, l'idée, c'est plutôt de fonctionner avec le temps en réseau parce que je trouve que chacun fait très bien son métier. Et après, ça, je trouve ça absolument génial. Par exemple, là, on fait une potion hivernale pour les fêtes de fin d'année. Il y a de la menthe bergamote, des producteurs de menthe bergamote. Il y en a pas 150 en France. Et traité en direct du producteur, je trouve ça absolument génial. Ouais. Et comme je te disais, l'idée, moi, de base, c'était de réussir à structurer cette filière, alors que ça passe par des coopératives ou que ça passe en direct du producteur. Je dirais que mon enjeu perso, il est moins là, mais là, des fournisseurs, même des producteurs, ça peut vite monter quand même.
Et je vois que tes boissons, elles sont en verre. Est-ce que tu as pensé à l'impact environnemental de manière générale de toute la fabrication de la boisson ?
Complètement. Et ça c'est des réflexions qu'on nourrit au quotidien. Nous, on aimerait bien remettre en place la consigne. Donc ça, c'est un énorme projet. Après, c'est comme beaucoup de gros projets entrepreneuriaux, c'est-à-dire que remettre en place la consigne, c'est pas juste du jour au lendemain. Ça y est, je trouve un mec qui me relave mes bouteilles et puis c'est bon, je fais tout de la consigne. Il faut que tes magasins partenaires soient opérationnels pour qu'on puisse ramener la consigne chez eux. Tes restaurateurs, pareil. Donc c'est un vrai projet long terme. Mais j'adorerais arriver d'ici quelques années, c'est d'avoir 100% des bouteilles consignables. Donc ça, pour moi, c'est vraiment le top du top. Après, par rapport au verre, il y a des vrais soucis, on en est conscient, c'est quand même un produit qui est lourd, donc envoyer des palettes à droite à gauche, c'est sûr que ça consomme du gasoil, ça, on en est conscient. Cependant, on a un produit qui se veut hyper quali, on avait du mal à imaginer mettre ça dans des bouteilles en plastique. Ouais. Après, il y a pourquoi pas la canette qui se discute aussi, qui est pas inintéressante, parce qu'au final, ça conserve plutôt bien les principes actifs. Ouais, et là aussi, l'aluminium, on peut se poser des questions.
Oui,
comment est-ce qu'il est...
On sait que le verre est recyclé, contrairement à ces autres matières.
Ouais, alors l'aluminium, à ce qui paraît, enfin de ce que j'ai un peu lu, ça a l'air d'être plutôt pas mal en termes de recyclabilité.
De recyclabilité, oui, mais est-ce qu'ils sont réellement
en termes d'extraction, et aussi exactement, est-ce qu'il n'y a pas la trois quarts des consommateurs qui les jettent facilement dans une poubelle? Ça, c'est encore une autre question. Mais en tout cas, on est conscient de ces enjeux-là. On essaye de faire au mieux, donc déjà avec des bouteilles en verre dans un premier temps. Et je pense que quand on aura vraiment une démarche aboutie de A à Z, on aura de la consigne sur toutes les bouteilles. Et là,
et alors, qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour avoir la consigne?
Des acteurs qui font des petites bouteilles de 33 centilitres, notamment, parce que là, on est en discussion avec un acteur qui commence à faire ça pour des bouteilles de 20, donc des bouteilles de 75 centilitres, mais il s'est pas encore attaqué aux 33. Je crois qu'ils sont en train d'investir et petit à petit, ils vont finir par y arriver. Donc déjà, très concrètement, il manque un acteur qui est capable de le faire.
Mais attends, plus aucune bouteille de Coca-Cola 33 centilitres n'est consignée aujourd'hui?
Si. Alors d'ailleurs, pour tout le réseau hors domicile,
c'est consigné,
exactement, à 100% pour, 100%, j'exagère peut-être, mais toutes les jolies bouteilles de Coca que tout le monde connaît, elles sont consignées. Et là, je t'avoue que tu me poses une colle, je sais pas qui s'occupe de faire ça, mais chez Coca-Cola, je pense même qu'il est possible qu'il y ait carrément la machine dans l'usine qui est capable de faire ça, alors que nous, là, on a aussi pour projet un jour d'avoir potentiellement un outil de production, mais avoir en plus de l'outil de production, l'outil de lavage, en fait, on nous a dit calmez-vous, ça semble.
Aujourd'hui, vous produisez où vos boissons ?
Elles sont produites dans l'Ain aujourd'hui par un producteur en fait qui était spécialiste de la limonade et maintenant il diversifie un peu tout ça.
Donc vous avez dû construire une usine ?
Ah non, comme je te dis, ça c'est l'idée qu'on aime, ça c'est un peu comme la consigne, c'est ce qu'on aime, c'est un peu le but et le cheminement. Aujourd'hui, on passe par un prestataire qui lui s'occupe
vos recettes et c'est lui qui les...
Oui, alors on va souvent sur place, on est quand même là, on s'occupe de, par exemple, de faire les prémix, comme on dit, c'est-à-dire que nous on prend les plantes, on en fait nos propres mélanges.
Vous le faites tout ça?
On le fait sur place pour le coup.
Ah,
donc nous, on envoie les grosses quantités là-bas et on s'occupe de mélanger tout ça sur place pour garder un peu le secret de la recette parce que finalement il y a pas grand-chose qu'on peut protéger.
Ouais.
Donc on a ce façonnier aujourd'hui avec qui ça se passe très bien et qui est aussi un super partenaire et pourquoi pas à long terme avoir un outil de prod, ce serait la finalité aussi.
Vous êtes rentable aujourd'hui ?
Sur certains bons mois, on est rentable. Sur d'autres, un petit peu moins.
Mais a été lancé quand ?
C'était lancé en septembre 2018.
OK. Donc, voilà. OK. Et là, la crise est difficile pour Simple ou ça va?
La crise est vraiment pas facile cette année parce que on a quand même plus de la moitié de nos clients qui sont des restaurateurs ou des salles d'escalade ou des lieux de vie, donc naturellement ils sont hyper impactés et qui dit plus de restaurants dit naturellement plus de boissons à table. Et c'est vrai que sur des modèles format 33 centilitres comme ça, c'est quand même, ça se prête bien au restaurant, au bar, etc. On travaille avec les réseaux spécialisés, les magasins bio, mais c'est pas là où on peut avoir
Tu vends plus en restaurant aujourd'hui que dans les magasins bio?
Ouais.
Ah ouais.
Alors que pourtant j'ai moins de clients restaurant que de clients magasins bio, mais en fait les rotations, les volumes sont plus intéressants sur du restaurant.
Ok, c'est ouais. Intéressant. Je pensais que tu vendais plus en magasin instinctivement, quoi, parce que en effet beaucoup plus de magasins et des gens qui sont peut-être plus amenables chez ces boissons-là qu'au restaurant, je sais pas.
Bah non, visiblement les chiffres disent un peu autre chose. Donc ouais, crise difficile. Après, j'ose espérer, comme beaucoup de gens, que ça va aussi mettre les projecteurs là où il faut. C'est-à-dire ouais. Que voilà, nous on parle de plantes françaises, on parle de bio, de local depuis le début qu'on existe. Je pense que ça commence à faire de plus en plus écho au sein de la tête des gens.
Oui.
Donc je pense que les codes vont aussi changer et qu'on est complètement on est dans l'air du temps pour le coup.
Et tu réfléchis du coup si tes clients c'est les restaurants, est-ce que tu réfléchis aux accords mais et simple?
Absolument, et c'est absolument fou parce que j'ai un client qui est étoilé, qui est dans l'Est à Aubernais, et je l'ai eu au téléphone la semaine dernière et il me disait écoute, bon c'est dommage que là il y ait de nouveau ce confinement, mais nos accords simples fonctionnaient très bien, notamment avec la feuille de cassis, donc j'étais assez heureux d'entendre ça.
Ah,
et effectivement
chouette.
Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on retrouve les mêmes boissons dans un kebab que dans un étoilé. Alors les étoilés, ça dépend lesquels, mais je veux dire, on retrouve du Coca-Cola absolument partout.
Ouais, ça, c'est
et,
vrai.
Et nous,
c'est souvent un axe de l'amélioration que nous, on note chez nos restaurants.
Enlever le Coca.
Enlever les boissons industrielles.
Voilà, et en fait, c'est assez fou de se rendre compte de ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire un sourcing sur le vin, mais ils vont visiter tous les vignerons, etc. etc.
Ouais.
Alors par contre, dès lors qu'il s'agit d'une boisson sans alcool, on ferme les yeux et puis on y va, on achète la grosse cavalerie. Et nous, on sent qu'il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Et aussi bien pour le kebab, parce que si c'est un super bon kebab... qui est bien sourcé, etc. C'est dommage de toujours proposer la même chose aux consommateurs. Après, il y a aussi une vérité qu'on ne peut pas enlever, et nombre de restaurateurs m'ont dit ça, c'est « Non mais Florent, tu comprends bien que je ne peux pas enlever le coca de ma carte. »
Ouais, mais alors, je leur réponds ce que m'avait une fois dit quelqu'un qui vend des boissons éthiques, justement, qui répond dans ce cas-là au restaurateur, mais est-ce qu'on a déjà vu un client partir du restaurant parce qu'on lui a dit qu'il n'y avait plus de coca ? Ou pas de coca? Non.
Non, je ne pense pas non plus.
Non.
Et c'est souvent.
Tu vas pas au restaurant pour boire un coca.
Non, c'est vrai. C'est vrai. Et je ne pense pas non plus que ce soit la boisson qui fait que ton repas était complètement incroyable. Ah, il y avait du coca, t'imagines, dans le restaurant. Donc.
Non, mais c'est intéressant parce que c'est un peu pareil avec le café. Et dans l'épisode de Sur le grill des cotables, sur le café, l'arbre à café avait fait ce constat. Qui était que tu mangeais potentiellement un repas délicieux que tu pouvais avoir payé cher si tu étais dans un restaurant gastronomique, et tu te retrouvais avec un café de piètre qualité derrière. Et on ne faisait pas forcément attention à cette boisson-là, et c'est sûr que c'est pareil, en effet, avec les softs qu'on peut avoir à côté, quoi.
Exactement. Et donc, on pense qu'il y a des choses à faire très intéressantes au niveau gustatif, au niveau aussi des vertus, parce que ce qui est un petit peu caché derrière tout ça, c'est qu'on aime bien, c'est ce qu'on aime bien se dire, qu'on soigne les gens à grande échelle, sans même qu'ils s'en rendent forcément compte, parce qu'en fait, on leur fait boire des infusions de façon un peu détournée.
Et alors, est-ce que quand même, le fait que ça soit mis en bouteille comme ça, c'est pasteurisé?
Oui.
Ça fait pas perdre justement de la vertu aux plantes?
Ah, ça c'est aussi une discussion que j'ai régulièrement, et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'en fait nous on fait des infusions à chaud déjà. Donc en fait on passe les plantes dans de l'eau qui est plus chaude que la température de pasteurisation. Donc l'idée c'est qu'on arrive à extraire ces principes actifs qui sont intéressants à des températures qui sont assez élevées. Donc le fait de repasteuriser derrière va pas détruire les molécules actives qu'on s'est entre guillemets ennuyé à aller chercher à plus haute température. Donc ça,
okay.
C'est un vrai impact, enfin c'est un vrai intérêt et une vraie différence par rapport à des purs jus de fruits,
oui.
Où là ça n'a absolument pas d'intérêt nutritionnel. Alors gustatif,
ça devient du sucre
gustativement intéressant éventuellement, ça dépend du jus en question, mais ouais. Du coup là nous ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive à dire aux gens on pasteurise, donc ça peut se conserver, parce que les restaurateurs, il faut pas oublier qu'ils ont des vraies problématiques de place, de stockage, de
bien
température
sûr.
De stockage. Donc là on dit ça se conserve à température ambiante pendant 2 ans, il y a pas de souci, et les vertus des plantes sont conservées. Donc ça, c'est quand même quelque chose de très positif.
Parce que moi, ta boisson, je l'ai découvert au frigo, dans les magasins Biocoop.
Ils sont sympas, ceux qui le font. Merci aux magasins.
Mais est-ce que ça veut dire que t'as deux types de boissons, certaines qui se gardent au frais, d'autres... Non,
non, okay. Non, pas du tout. C'est simplement une volonté de leur part de nous permettre une petite mise en avant sympa pour le coin snacking et du coup d'avoir la boisson directement fraîche à consommation, mais elle se conserve pas au frais, contrairement à des boissons vivantes comme les kombucha ou autres. Ouais. Où là, il y a une véritable fermentation qu'il faut éviter de faire abonder. Donc là, non, nous, il n'y a rien à voir. C'est pasteurisé, ça ne bouge pas.
Et alors, c'est quoi l'avenir pour Simple, justement? Tu nous parles du kombucha, ça t'intéresse, ce type de...
Alors, pas vraiment. Je pense sincèrement pas qu'on ira vers... Alors, il ne faut jamais dire jamais. Donc, je ne sais pas de quoi l'avenir est fait. Hein. Je ne suis pas encore voyant. Mais je ne pense pas qu'on ira vers les boissons fermentées. Il y a vraiment énormément d'acteurs qui, d'ailleurs, font des choses vraiment top. Et je pense que c'est très bien. Ça se démocratise. C'est top. Nous, vraiment, c'est cette idée de faire infuser des choses qui poussent en France. Voilà. Et donc, ça pourra passer par d'autres types. Là, on a des potions, on a des infusions pétillantes. On est à peu près sûr qu'il y aura d'autres types de produits. Cependant, il y aura cet ADN commune de faire infuser des choses qui poussent localement, quoi.
Et des boissons ou peut-être autre chose?
Pour l'instant, des boissons, sincèrement. En fait, on se rend compte qu'on ne peut pas tout faire. Et,
Bien sûr.
On peut avoir des supers idées de faire plein de choses. Moi, je préfère être sûr de ce que je fais avec des bonnes boissons qui plaisent au plus grand nombre et qui font changer les choses que d'aller me diversifier à faire des choses dont j'ai pas forcément la maîtrise. Et pour l'instant, ce sera des boissons.
Et donc, est-ce que maintenant, tu bois tes boissons avant d'aller faire de l'escalade ou tu continues à les faire toi-même?
Je pense que je reste encore un des plus gros consommateurs de simples de cette planète. Vérifier avec le temps parce que j'en ai certains qui commencent à me faire de l'ombre, notamment quelques clients qui m'avouent boire 2-3 bouteilles par jour. Mais non, je pense que pour l'instant, oui, j'en bois clairement, régulièrement.
Et sur ta connaissance des plantes, est-ce qu'il y a des personnes qui t'ont inspiré, qui t'ont mené vraiment à la connaissance des vertus de ces plantes?
Là vraiment c'est les agriculteurs en fait, enfin les exploitants agricoles qui font pousser ces plantes là parce que c'est des gens qui le font avec passion et qui ont vraiment réussi à me la transmettre, je pense. Et après ça a été dérivé. La botanique me plaît énormément, enfin voilà, c'est tout un tas de connaissances en fait que je trouve hyper intéressantes. Et là, dernièrement, j'ai remis les pieds au conservatoire où j'avais fait mon stage. Et du coup, je suis devenu administrateur du conservatoire. Et du coup, c'est tout un tas de personnes. On a un professeur des universités qui est passionnant. Donc, c'est tout cet écosystème-là, en fait. Ouais. Et je m'en nourris, hein, parce que je me revendique pas encore comme un vrai spécialiste des plantes. C'est-à-dire que j'ai quelques connaissances, mais j'essaie au maximum de me former et de continuer dans ce sens-là.
D'accord.
Et il y a aussi toute cette problématique du métier d'herboriste qui est en train de revenir assez fort là en France. Et j'aimerais bien pouvoir participer à cette mouvance. Et devenir herboriste un jour, ce serait une belle
ah
finalité,
ouais.
Aussi, ouais.
Ah, c'est joli comme avenir. Je vais finir par te poser les deux questions que je pose toujours à mes invités. La première, c'est: est-ce que tu te considères comme militant?
J'avais écouté les podcasts, je l'avais entendu. Et
t'as préparé ta question.
Non, je m'étais dit que je ne saurais pas quoi répondre. Et je crois que de façon tout à fait humble, je peux pas me... Non, je pense pas être véritablement un militant à proprement dit. C'est-à-dire que je ne sors pas forcément dans la rue avec une fourche pour aller crier ce que je pense. Mais je pense qu'à mon échelle, j'essaie de contribuer au maximum à un avenir meilleur. Et j'essaie aussi de transmettre ça à tous les gens qui m'entourent. Alors, ça peut être des parties prenantes pour le projet, mais ça peut être des gens... Des plus petites personnes, par exemple des enfants que je vois, où j'essaie de donner un peu de ma vision de la vie, j'essaie de leur en donner une partie, mais après je pense pas être pour foncièrement militant.
T'as l'air d'avoir une vision très optimiste, je sens en toi une énergie très positive, t'as pas l'air en colère, ce que peuvent être certains militants. Moi par exemple, je suis parfois en colère contre ce qui se passe aujourd'hui, ça a pas l'air d'être ton cas.
Bah, t'as raison. Je pense qu'il faut être en colère et je pense d'ailleurs que des fois il faut savoir taper du poing sur les i et il faut
sur la table.
Ouais, sur la table et ouais, taper du poing sur les i, ça n'existe pas.
Mettre poing
sur les i. Mais je pense que si on veut aussi faire changer les choses, il faudra le faire dans la coopération.
Oui.
Et après chacun mène sa barque et au final c'est aussi le consommateur final qui a le pouvoir en fait, en achetant ou pas les produits qui sont bien ou pas bien. Et après, il y a aussi le pouvoir du marketing, malheureusement, qui peut venir.
Alors,
un peu...
Je vais du coup te poser un peu une question qui fâche, qui est que oui, le consommateur a le pouvoir s'il a les moyens. Et par exemple, ta boisson, Combien elle coûte?
Bah, elle coûte autour de, ça dépend, entre 2 et 2,50 en magasin spécialisé. Donc, on essaie d'avoir un prix qui soit pas non plus trop délirant.
Ouais, c'est vrai.
Et pour autant, on peut pas non plus la proposer à 70 centimes ou 80 centimes comme un coca, par exemple, parce que ouais. c'est un produit artisanal avec des plantes françaises, des fruits cultivés en France aussi. Donc, il faut trouver ce juste milieu pour que le prix soit acceptable et pour autant, sans déroger sur la qualité. Donc, ouais, on est conscient de ça et pour le coup, enfin voilà, j'étais étudiant il y a vraiment pas longtemps et je vois ce que c'est que le pouvoir d'achat. Et pour autant, ce qui est vachement intéressant, c'est que c'est aussi les jeunes qui ont envie de changer, donc il faut pouvoir leur proposer des produits
intéressants
qui peuvent s'acheter finalement. Donc je suis conscient de cette problématique là et on essaie de faire attention à ça avec les produits.
Ouais, en limitant le prix. Ouais. Ok, intéressant. Ma dernière question, c'est une question plus politique. Peut-être que tu l'as déjà entendu du coup, mais si tu devais changer quelque chose demain, si tu avais le pouvoir de le faire parce que tu te retrouves politiquement au pouvoir, qu'est-ce que ce serait pour l'alimentation durable, hein?
Ce serait de remettre beaucoup de personnes dans les champs.
Okay.
Je pense qu'en fait la transition elle va passer par une agriculture écologiquement intensive et je pense vraiment que le changement il va passer par là en fait. C'est-à-dire
qu'est-ce que t'entends par écologiquement intensive?
Typiquement quand on parle de permaculture, quand on parle de ces choses-là, c'est-à-dire qu'en fait un hectare de terrain devrait pouvoir nous fournir une quantité de nourriture extrêmement importante et pas juste un hectare de blé qui finira par être transformé, etc. En fait, je pense que il va falloir que les gens prennent conscience que manger c'est pas juste comme acheter quelque chose en plastique, quoi. Ça a coûté quelque chose et je pense que il faut que les gens aient conscience de ça, qu'ils aient aussi conscience qu'ils paient pas les choses au bon prix. C'est-à-dire quand on achète un jambon par exemple dans une barquette, il devrait pas coûter 1 €, il devrait coûter 30, 40, 50 euros si on mettait par exemple toute la pollution qui était engendrée par ce même bout de jambon à l'intérieur. Donc je pense qu'il faudrait que les gens déjà réapprennent à acheter les choses au vrai prix, parce que ça c'est quelque chose qui a été complètement galvaudé par la grande distribution. Et deuxièmement, remettre des gens au champ, parce qu'il y a plein de gens qui font n'importe quoi dans des bureaux pour vendre des produits dont personne n'a besoin, mais par contre dès lors qu'il faut mettre un peu les pieds dans la terre et remuer quelques carottes, on perd tout de suite du monde. Et je pense que c'est en se reconnectant à ça.
Mais comment tu ferais ça?
Ah là, je ne suis pas politicien. Mais ça ferait partie des pistes de.
Ont appelé quand même le gouvernement à le faire pendant le confinement, par exemple.
À faire pousser des choses chez eux?
Non, à ce que les gens aillent aider les agriculteurs qui n'avaient plus les aides agricoles issues des autres pays, notamment des pays du Sud.
Et ça n'a malheureusement.
Si, ça a marché, mais bon, ça a marché de manière limitée, mais ça.
Ouais, de manière limitée. Ah, malheureusement, j'ai pas la formule magique, quoi. Donc, je laisse l'avenir nous le dire. Mais en tout cas, remettons un peu de force là-dedans et allons acheter des produits au marché d'agriculteurs du coin qui font ça en bio et qui essaient de redonner un peu vie à cette terre qui a été très très malmenée.
Merci beaucoup, Florent.
Merci, Fanny.
Merci d'avoir écouté Sur le Grill d'Écotable. Nous espérons que cet épisode vous a plu et que, comme nous, vous avez appris de nouvelles choses. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de noter ce podcast 5/5, de vous abonner et d'en parler autour de vous. Sachez par ailleurs que la musique de ce podcast est issue du merveilleux groupe engagé, le Caribou Volant. Et puis, surtout, n'oubliez pas d'aller manger dans les restaurants écotables. À bientôt sur notre grille !